Le rendez-vous d'Amnesty International.
Et bonjour, je m'appelle Guillaume et je suis militant auprès d'Amnesty International. Je suis membre de l'antenne jeune de Montpellier et je suis accompagné de...
Loric, bonjour à tous. J'ai 19 ans et je suis étudiant et je suis également membre de l'antenne jeune d'Amnesty International.
Voilà, et avant de commencer de quoi nous allons parler, nous vous souhaitons à toutes et à tous un joyeux mois des fiertés en espérant que tout se passe bien pour vous. Alors, Loric, pourrais-tu nous parler un peu de ce qu'on va parler aujourd'hui ?
Aujourd'hui, nous allons parler de vidéosurveillance algorithmique et de reconnaissance faciale.
Alors, quand on entend vidéosurveillance algorithmique, c'est très flou, je pense, dans la tête de beaucoup de gens. Et pour des raisons pratiques, on parlera plus de VSA. Mais tu pourrais nous parler un peu ce que c'est la VSA et quelle est la différence avec la reconnaissance faciale ?
Alors, l'objectif de la VSA, c'est de rajouter une couche pour traiter les données plus rapidement avec un algorithme, qui est souvent une intelligence artificielle. Donc, l'objectif, c'est d'automatiser la vision des caméras de surveillance pour pouvoir, soi-disant, augmenter la sécurité dans les lieux festifs notamment. Et donc, le gouvernement français a fait passer une loi pour légaliser l'usage de la VSA pendant les JO et pendant les événements festifs.
C'est exact. En effet, la VSA se distingue de la reconnaissance faciale parce que ça va être déjà par une assistance d'intelligence artificielle pour la vidéosurveillance. Et ça va plus analyser des comportements que reconnaître les visages des personnes. Et là, le gouvernement a adopté cette loi un peu de manière un peu secrète, on va dire, où ils ont utilisé une procédure accélérée et c'était en 2023, donc en pleine période des réformes de retraite. Donc le débat social et public et même le débat parlementaire fut assez bref et assez court. Et donc peu de gens ont finalement pu se positionner sur la question.
C'est ça, et il faut dire que c'est une première en Europe et qu'on rejoint ainsi des pays comme la Chine ou la Russie qui donnent pas forcément envie d'être rejoindre au niveau sécuritaire. Et
Oui, tout à fait. Surtout qu'il faut savoir que la Chine et la Russie donc, sont des régimes autoritaires qui, eux, ont dépassé l'étape de la VSA. Ils utilisent la reconnaissance faciale et justement, la position d'Amnesty, nous sommes assez réalistes quand on utilise des cadre d'urgence d'exception qui là a été justifié par la présence des JO en France. Très souvent, c'est des cadres qui se pérennisent, comme on a vu avec l'état d'urgence, l'état sanitaire, où tout se maintient.
Et... C'est ça, et tout à l'heure, on parlait ensemble de la Russie et la Coupe du Monde qui avaient expérimenté la reconnaissance faciale pour protéger la population et qui au final continue encore après la Coupe du Monde alors que c'était censé être une exception.
Donc finalement, les exceptions deviennent très vite la norme. Alors, et justement, en fait, l'une des raisons pour laquelle Amnesty International a sa position, c'est avoir une pétition pour interdire de manière absolue la reconnaissance faciale. Et la raison principale à ça, c'est qu'il y a un flou juridique qui mène à différentes expériences. Ah, comme par exemple, en expérience, il y a Nice, qui est... Tu peux dire quelques mots dessus ?
Il y a trois expériences principales qui ont été menées en France à ce jour. À Nice, dans les trams, ils ont notamment expérimenté la reconnaissance des émotions. On a d'ailleurs réalisé avec Amnesty un court-métrage très intéressant à voir sur notre site. On a également à Metz, pour les stades de foot, organisé des reconnaissances faciales pour les supporters, pour vérifier les incivilités, etc. Et puis, dans certaines gares, il y a également des systèmes similaires, donc ça intervient dans un contexte où on utilise de plus en plus la reconnaissance faciale et souvent au mépris des données des utilisateurs, puisque la CNIL, donc qui se charge de surveiller votre vie privée, etc., n'est souvent pas utilisée et pas n'est souvent pas mise au courant de l'utilisation de vos données.
Au cas où, pour les gens qui ne sont pas très à l'aise, tout comme moi, avec les acronymes, la CNIL, c'est la Commission nationale d'informatique qui est liberté. Donc, elle a pour mission de faire respecter le RGPD, c'est le règlement général des données personnelles. Donc, c'est grâce à elle si vos données personnelles et donc, par conséquent, votre vie privée reste privée.
C'est ça. Et en plus, ça se fait souvent au mépris du droit européen, comme à Nice. Pardon.
Juste avant de continuer l'analyse de la loi et du bilan sur la vidéosurveillance, nous allons faire une petite pause musicale.
Rimbaud, Verlaine, Elton, Genet, RuPaul, Frank, Freddy, Warhol. Hier encore, j'ai cherché les exemples dans ma vie, j'ai trouvé qu'une poignée de gens en or. Pas de peur, j'ai souri quand je me suis dit qu'il existait là quelques-uns qui parlent fort. Mort ou vivant, je les entends me guider. Fort et vibrant, je les ressens me parler. Sont-ils encore là? Même sous la honte et les crachats. Dites-moi comment répondre à tous ceux qui font comme si ça n'existait pas. Aidez-moi à sortir l'arc-en-ciel qui sombre encore et toujours sous les gravats. Je les entends me parler, je les entends me crier. Je ressens tous ces hommes qui m'ont permis d'accepter que je suis aujourd'hui le plus beau des Rimbaud, Verlaine, Elton, Genet, RuPaul, Frank, Freddy, Warhol font partie de ma vie, me libère de mes ennuis. Rimbaud, Verlaine, Elton, Genet, RuPaul, Frank, Freddy, Warhol font partie de ma vie, me libère toutes mes envies. Rimbaud, Verlaine, Elton, Genet, RuPaul, Frank, Freddy, Warhol font partie de ma vie, me libère toutes mes envies. Rimbaud, Verlaine, Elton, Genet, RuPaul, Frank, Freddy, Warhol font partie de ma vie, me libère toutes mes envies.
Et bienvenue, vous êtes de retour avec votre rendez-vous avec Amnesty. Maintenant qu'on a un peu passé les définitions du sujet, qu'on connaît un peu plus le contexte, on va parler un peu plus de tout ce qui est VSA, des atteintes que ça va porter, est-ce qu'on connaît l'utilité, et ensuite des actions aussi que Amnesty en organise autour. Loïc, pourrais-tu nous en parler un peu ?
Alors, il faut savoir que la VSA, donc la vidéosurveillance algorithmique, menace trois libertés fondamentales. Premièrement, la liberté d'expression et de manifestation, puisque quand vous savez que vous êtes surveillé, ça fait un peu l'effet d'un panoptique, donc c'est-à-dire que vous êtes surveillé en permanence. C'est comme les tours au milieu des prisons où vous savez pas si un gardien vous regarde ou non. Et donc, vous êtes tenté de vous restreindre, de vous auto-censurer et de vous retenir de manifester notamment. Ensuite, ça menace le droit à votre vie privée, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, la CNIL n'est souvent pas mise au courant. C'est une atteinte personnelle à votre vie privée, à votre visage, à vos émotions, puisque la VSA, ça pourrait théoriquement tout retenir sur vous, et si c'est pas contrôlé, ça peut être dangereux. Mais également, c'est également une atteinte à ne pas être discriminé, à votre liberté de tout simplement exister sans être discriminé, puisque la vidéosurveillance algorithmique doit définir ce qu'est la norme. Or, si elle définit ce qu'est la norme, elle définit ce qui est anormal, et elle va pour cela se baser sur ce que l'humain considère comme anormal. Or, dans une société qui est discriminante, les algorithmes vont nécessairement devenir à leur tour discriminants.
Merci beaucoup pour cette explication. Et justement, je me permets de revenir un peu sur la liberté d'expression et de manifester. Il faut savoir que c'est des libertés qui sont extrêmement importantes et des droits aussi extrêmement importants en droit international. Et par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme qualifie ces libertés comme essentielles à une société démocratique. Porter atteinte à ces libertés, normalement, la Cour européenne est extrêmement prudente sur ça et laisse vraiment une plus grande marge de manœuvre possible, parce que c'est à travers ces moyens-là que la société publique, que le peuple qui est censé être souverain, peut s'exprimer. Et par rapport à la vie privée, justement, comme on a dit, c'est vraiment avoir la reconnaissance faciale et la VSA. En fait, c'est vraiment être filmé en permanence, tous vos mouvements, tous vos gestes, toutes vos sons, confinés, sont documentés dans un dossier, et donc en fait l'espace public devient totalement, vous êtes, dès que vous êtes dans un espace public, vous êtes filmé. Et par rapport à cela, justement, à Amnesty, on a fait une petite action assez symbolique qui est très parlante, avec un petit réel d'une minute, si vous voulez vraiment, si vous avez envie de vous renseigner un peu plus. C'est Amnesty International a décidé d'enterrer la vie privée. C'est une image assez forte et assez importante que je pense qui permet de réaliser l'impact qu'aurait la VSA et la reconnaissance faciale dans nos vies.
Oui, et puis quand on enlève la vie privée, on donne finalement à l'État ou au gouvernement le droit de nous imposer des lois et de nous obliger à les respecter alors qu'on ne serait pas forcément d'accord. On leur donne un pouvoir qui est inédit, qui est exceptionnel, comme la Chine, donc ça laisse ça laisse tout un tas de dérives qui peuvent exister derrière.
Justement, en parlant des dérives, très souvent, cette image est loin. On pense très souvent au livre 1984, merci, de George Orwell. On pense à la Chine en se disant c'est pas possible en France. Mais il faut savoir qu'entre la VSA et la reconnaissance faciale, le pas est très proche. Et Amnesty s'est à tourner un court-métrage, à produire un court-métrage, justement pour montrer en fait qu'est-ce que donnerait l'application de la reconnaissance faciale en France. Et comme on a dit, actuellement, il y a un flou juridique. Il y a eu des expériences qui ont essayé d'être réalisées. Certaines ont abouti, d'autres ont été refusées par rapport justement au droit européen, au droit international. Mais il faut savoir que tant que ce flou juridique existera, finalement, cette réalité est très proche. Et je sais que toi aussi, tu peux en parler si tu veux, mais je sais que quand j'ai vu ce court-métrage, et si tu voudrais en parler un peu plus que moi, j'ai trouvé la réalisation superbe, mais le message est très fort et il fait peur.
Oui, c'est ça. En fait, dans le court-métrage, on va pas trop en parler, on vous laissera le regarder, mais on voit rapidement que tous les gens qui ne se comportent pas comme la norme, tous les gens qui sont un peu stressés, un peu angoissés parfois parce qu'ils sont des victimes de quelque chose, et bah, finalement, ils sont perçus comme suspects par la société. Parce que finalement, l'œil humain pourrait les considérer comme suspects, mais là, on se base sur l'algorithme pour dire qu'au final, hop, on va l'interpeller, on va lui demander ses papiers, on va etc., etc. Alors que dans la rue, on se dirait juste, oh, il sourit pas, il fait la gueule, c'est suspect, mais sans plus, on a le droit de faire la gueule. Mais là, c'est surtout la police, surtout à Paris. Et là, même la police se sert de la vidéosurveillance algorithmique, etc., et de la reconnaissance faciale, pour derrière déterminer qu'il est suspect. Donc finalement, tout le monde est un potentiel suspect. Tout le monde qui ne se comporte pas comme les autres est un potentiel suspect et un potentiel criminel.
Surtout, justement, on parle beaucoup de ce terme suspect, de ce terme de norme, et il faut savoir qu'en fait, ce terme vient de la loi en elle-même, où la VSA est faite pour repérer ce qui a été qualifié de, entre guillemets, comportement suspect. On a par exemple le fait de... qui est une densité trop importante de personnes, c'est-à-dire tout ce qui est festival, tout ce qui est manifestation, rassemblement. Donc on voit qu'en fait, la foule fait peur, le fait d'être nombreux fait peur et vous considère comme suspect parce que, par exemple, vous êtes allé au concert de Taylor Swift qui était sur Lyon ce week-end. Sachez que tous les spectateurs, vous avez été considérés comme suspects parce qu'il y a une densité importante.
Oui, c'est ça. Et puis, il y a tout un tas d'autres comportements, comme par exemple le fait de courir à contresens si vous jamais voulez rejoindre vos amis et que vous vous êtes trompé. Ou tout simplement, pour les personnes qui sont handicapées, qui peuvent par exemple marcher bizarrement, et ben, sachez que vous serez considéré comme suspect par la vidéosurveillance algorithmique.
Aller à contresens, autant de manière figurée que de manière littérale, vous rend suspect dorénavant avec la VSA. Ensuite, nous nous montrons un peu critique sur les termes de la VSA et beaucoup de gens diront qu'ils auront rien à cacher, ou que sinon que c'est pour la sécurité. Et justement, en termes de sécurité, Luric, pourrais-tu en parler un peu?
Oui, alors en termes de sécurité, déjà l'impact est très limité. On estime que 1% des affaires ont été élucidées grâce à la VSA. Donc c'est très faible, et surtout ça ne prend pas en compte tous les faux suspects qui ont été mis en lumière par cette VSA, c'est-à-dire le temps perdu par la police à finalement chercher des preuves contre quelqu'un qui n'avait rien fait. Donc ça permet d'élucider très peu d'affaires et ça fait perdre beaucoup de temps à la police.
Et surtout, cette estimation, il faut savoir qu'elle vient directement, c'est une recherche qui a été menée et commandée par la gendarmerie, donc c'est-à-dire que même les forces de sécurité nationales reconnaissent que finalement la vidéosurveillance a été très peu utile pour élucider des affaires. Autre exemple, Nice encore. À Nice, hélas, je pense que beaucoup de gens sont au courant et se rappellent, lors du 14 juillet 2016, si je ne me trompe pas, la ville a été victime d'attentats d'un camion bélier, chose que nous déplorons bien évidemment, mais il faut savoir que Nice est l'une des villes qui est les plus pionnières en matière de vidéosurveillance, c'est la ville où il y a eu le plus d'expériences, où même dès 2016, était la ville la plus vidéosurveillée, et pourtant, malgré ce mécanisme dit de sécurité, ça n'a pas du tout empêché l'attentat d'avoir lieu. Donc, pour faire bref, on a des atteintes au droit à la vie privée, qui sont réelles, des atteintes à la liberté d'expression et de manifestation, un risque d'accentuer les discriminations et de porter atteinte donc au droit à l'égalité, pour finalement une sécurité assez fictive. Et là, tu pourrais dire, une fois de plus, non, mais nous, on n'a rien à se reprocher. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là, Loric ?
Ben, peut-être que vous n'avez rien à vous reprocher pour l'instant, mais qui sait, peut-être qu'un jour, ce que vous ferez actuellement, que vous considérez totalement légitime, deviendra illégal si jamais votre gouvernement deviendra autoritaire. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. On donne une arme à un gouvernement qui lui donne toutes les raisons de devenir autoritaire. S'il sait qu'il pourra coincer tous ceux qui se rebellent contre lui, il a toutes les chances de devenir autoritaire. Et puis d'ailleurs, on voit d'ailleurs actuellement des dérives en manifestation. On voit déjà ce genre de choses. Si on met une reconnaissance faciale ou une vidéosurveillance algorithmique, on se doute très rapidement que des gens qui manifestent par exemple pour certaines causes pourront être embarqués pour apologie du terrorisme. Par exemple, tout exemple marche, évidemment, mais celui-là est particulièrement pertinent avec l'actualité.
Oui, et même pour des choses plus du quotidien, il faut savoir que, hélas, nous n'avons aucune sécurité politique et que la sécurité juridique peut être remise en cause par le changement de politique, par le changement de gouvernement. On n'est pas à l'abri qu'un jour, les démocraties, les sociétés démocratiques tombent dans des régimes autoritaires. Ça a été le cas avant et surtout dans le contexte actuel où de plus en plus de régimes autoritaires s'en fleurissent, de lois de plus en plus restrictives apparaissent. Il faut se poser la question jusqu'à quel point on est prêt à donner pour sacrifier au nom de notre sécurité et encore de manière assez fictive, sommes-nous prêts à sacrifier nos libertés et sommes-nous prêts à donner autant de pouvoir à des États qui peuvent être changeants, dirigeants et qui, pour le moment, nous n'avons peut-être rien à cacher du point de vue légal, ce qui est tout à fait possible, mais il faut savoir que la légalité change, la légalité est définie par les gouvernements ou par exemple en Chine, quelque chose de tout bête, et on se dit c'est la Chine, et souvent c'est vrai qu'on utilise très souvent cet exemple, et on se dit la Chine c'est loin, c'est vraiment un régime autoritaire auquel la France a peu de chances de ressembler, mais de plus en plus on ressemble à la Chine, et il faut en avoir conscience, les lois sont de plus en plus proches, autant sur la matière de vidéosurveillance qu'on vous parle, mais même pour d'autres domaines, donc on peut se poser la question, est-ce qu'un jour... Là, beaucoup de Français, soyons honnêtes entre nous, on traverse des passages piétons au feu rouge. On fait beaucoup de contraventions de route, ou par exemple, on fait des excès de vitesse ou autre. Certaines personnes vont manifester ou autre. Donc, en fait, c'est vraiment une menace pour les militants, les personnes qui sont engagées, donc les défenseurs des droits, tels que nous. On serait considérés comme suspects et on pourrait faire partie des premières personnes que l'on voudrait condamné au silence, les lanceurs d'alerte, mais même en dehors des personnes militantes qu'on pourrait considérer comme suspects parce que politisées, même les citoyens, dans un des actes les plus ordinaires, un cancer, marcher à contre-courant, parce que personnellement, moi, je ne connais pas le sens de la circulation quand on est piéton. Je la connais quand on est en voiture, mais quand on est piéton, c'est plus compliqué, je trouve. Les passages piétons, un citoyen, dès qu'il rentrera dans l'espace public, ne sera plus présumé innocent, il sera présumé coupable ou en tout cas suspecté.
C'est ça, en fait, déjà tout ce qui est désobéissance civile, ce sera impossible, ce sera directement fiché, vous pourrez limite avoir un casier judiciaire. Et puis ça fait quand même un peu penser à un épisode de Black Mirror, où à chaque fois que vous faites une erreur, vous perdez une note, à chaque fois que vous jetez un papier par terre, hop, la note elle baisse, et au final... vous vous retrouvez à être privé de certains droits, de certaines libertés, si vous n'avez pas une note suffisamment élevée. Et au final, on se retrouve ainsi avec un classement des meilleurs citoyens, des pires citoyens, qui n'est pas fondé sur grand-chose, parce qu'on peut faire n'importe quoi à quelqu'un, et puis on fait tous des erreurs dans la vie. Alors évidemment, on ne fait pas l'apologie de ceux qui font des délits ou des crimes, mais on a tous déjà traversé un feu rouge en étant piéton ou quoi. Et c'est pas ça qui a tué quelqu'un, mais le principal c'est de défendre les personnes et surtout de défendre leurs droits à la vie privée et surtout à se rendre compte si c'est mal ce qu'ils font ou pas. Et on est assez grand, je pense, et voilà.
il faut savoir que la France veut payer des libertés, et donc en espérant que l'on reste libre, mais c'est difficile d'être libre quand on est surveillé. Et il y a une phrase que j'aime bien et que je vous pose cette question. Avez-vous envie que l'État devienne votre stalker? Avez-vous envie que l'État sache absolument tout ce que vous faites, où vous êtes, qu'avez-vous fait, qui vous voyez? C'est quelque chose qui deviendra réalité si la reconnaissance faciale aboutit. Donc si vous êtes contre cela, allez sur le site d'Amnesty International France, renseignez-vous, vous pouvez signer la pétition et soutenez-nous. Sur ce, je vous remercie. Un petit mot pour la fin, peut-être?
Bah, merci de nous avoir écoutés et on vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée à toutes et à tous.